Il y a 10 jours, beaucoup d'entre vous ont appris l'existence de cette enclave espagnole au Maroc, l'enclave de Ceuta, et l'Espagne est de nouveau sur le qui-vive. 70 000 personnes, il y a 10 jours, étaient entrées dans l'enclave, 70 000 sont reparties, 2 000 sont toujours sur place. D'ailleurs, le dirigeant de Ceuta veut confiner les migrants en attendant leur expulsion, ceux qui restent, c'est ce qu'il dit, et il s'inquiète. Et d'ailleurs, les dirigeants espagnols s'inquiètent parce que sur les réseaux sociaux, il y a de nouveau des appels avec des codes comme 15/8/15/8, ce qui veut dire peut-être 15 août, pour passer de nouveau la frontière en disant qu'il pourrait y avoir de nouveau des régularisations. Alors il y a bien sûr ce qui tient de l'ordre des fake news, mais il y a les appels de nouveau, les forces de l'ordre ont été renforcées, on a même installé des barrages boués en mer, parce qu'il y avait une rumeur qui disait que si on arrivait par la mer, on pouvait ensuite bénéficier de titres d'accueil. Exactement. Voilà, parce qu'il n'y avait pas de, on n'avait pas forcé la frontière. C'est pour ça que là, cette fois-ci, on a mis des bouées. Est-ce que cela va suffire? Vous avez vu que ça avait créé une crise entre les Européens aussi. S'il y a un nouveau problème à Ceuta, est-ce qu'on aura une crise migratoire cet été? Est-ce que vous êtes inquiet? 32-16, on en parle avec les GG. Monsieur Antoine Dierz.
Je pense déjà que tout le monde a en tête les images des 30 et 31 juillet dernier. Il y a 50 000 personnes qui se sont précipitées sur une frontière européenne. On a ces images, des foules d'hommes jeunes qui arrivent et qui forcent l'entrée. Les autorités marocaines sont restées très passives face au phénomène, en laissant aller ces gens vers la frontière européenne. Et puis, on n'a toujours pas trouvé d'où venait sur les réseaux sociaux la manipulation des foules. Mmh. Et donc, il faut qu'on commence à comprendre que l'immigration clandestine, illégale, violente va être une arme diplomatique, géopolitique, de déstabilisation, et l'Union européenne reste parfaitement passive. Ce qui m'a choqué, c'est les tenants de l'extrême centre qui minimisent, qui disent mais non, il y avait pas 50 000 personnes, mais qu'est-ce que vous racontez, mais non, il y a rien de mal, enfin voyons, vous exagérez toujours, alors qu'en réalité c'est l'enjeu de demain pour l'Union européenne de faire face à ces afflux. Je me mets à leur place, hein. Ils veulent quitter peut-être des conditions économiques défavorables, mais si l'Union européenne ne se met pas en mesure de défendre efficacement ses frontières,
même ça d'ailleurs, tu as raison, on l'a pas su précisément qui étaient les 50 000 ou 70 000 personnes. Si c'était uniquement des gens qui venaient du Maroc, s'ils étaient au Maroc et que c'était des migrants d'autres nationalités, ça a été un peu compliqué de savoir là. Visiblement, il y a aussi beaucoup de mineurs qui se retrouve là à Ceuta. On ne sait pas trop ensuite ce qu'ils vont devenir. Didier Giraud, Joël Dagosséry, Didier.
Bah, moi, j'ai pas fait une analyse fine de la crise, mais j'arrive pas à comprendre qu'est-ce que les Espagnols, ils se font chier avec ce truc-là, quoi. Ils ont 40 ce territoire-là au Maroc, et puis l'affaire, elle est réglée, quoi. Enfin, je vois pas comment tu peux garder ce type de territoire, quoi.
Peut-être ce que le Maroc espère.
Non, mais
en étant passif.
Évidemment. Mais moi, je suis complètement d'accord avec toi, Antoine. Je pense que l'Europe et au moins l'espace Schengen devrait se doter d'une douane extérieure, quoi. C'est-à-dire que les pays de l'intérieur devraient mutualiser des moyens pour pouvoir garder ses frontières sur l'extérieur, mais de façon efficace. Parce qu'il y ait la libre circulation à l'intérieur de l'espace Schengen, c'est quelque chose. Que l'Europe soit complètement poreuse, c'en est une autre, quoi. Et pour moi, l'enjeu, c'est l'extérieur de l'espace Schengen. Et je pense pas qu'il y ait bien d'écart quand tu traverses la frontière bulgare-turque par rapport à la frontière France-Italie ou France-Espagne, quoi. Et je pense qu'il y a un vrai enjeu là-dessus. Et ce genre de phénomène doit faire en sorte que l'Europe prenne en compte l'extérieur de son espace, parce que tu peux pas non plus accueillir.
D'accord, mais il y a toujours le mirage, si tu veux, de se dire, et moi je peux le comprendre, j'ai un avenir meilleur aussi en Europe.
Mais quand tu vois qu'en Espagne, c'est un autre problème.
Oui, Bah, si tu, c'est le cœur du problème aussi. Quand tu vois qu'en Espagne, ils ont fait combien?
Des régularisations.
600 000 régularisations exceptionnelles. Et il y a eu 1 million de dossiers déposés.
Bien sûr.
En Italie, ils ont fait 450 000 permis de séjour. Donc, si tu veux, ça aussi, ça pèse. Et puis, tous ceux qui passent, bah, maintenant, aujourd'hui.
Le permis de séjour, c'est un peu différent, de la régularisation. Ah oui, mais, t'as quand même vocation à repartir chez toi après avoir travaillé,
Bah oui, mais du coup, comment, enfin, la vraie question, c'est aussi comment on peut, avec, 3 tweets et 2 publications Facebook, arriver à mettre 50 000 personnes dans la mer en leur faisant croire
y a une vraie manipulation.
Passe à la nage, ça va bien se passer.
Il y a un groupe derrière ou au moins un groupe informel qui pousse ces gens.
Les Russes, qu'il y a, je sais pas qui.
Voilà. Je sais pas qui.
Joël Dagosséry.
Non, première chose, et je reprends ce que Didier a dit, je sais pas ce que l'Espagne fout au Maroc. Il y a un moment où vouloir absolument garder 2 enclaves sur un territoire qui n'est pas le tien. Enfin, faut quand même se poser des questions, notamment si ce territoire te pose des problèmes constamment. Donc là, il faut quand même. Enfin, je sais pas si en Espagne si c'est un débat, mais se poser des questions si ce territoire, en fait, quel est l'avantage de le garder. S'il nous pose autant de problèmes, notamment sur le plan migratoire, qu'est-ce qu'on fait sur un pays étranger? Enfin, moi, je suis, vous le savez, contre toute forme de colonialisme. Donc, pour moi, ça, c'est du colonialisme. Donc, tu n'as rien à faire sur ce territoire. Donc, ça, c'est la première chose. Ensuite, si tu y es,
tu assumes.
Eh ben, oui, parce que là, ce que je comprends, c'est que la sécurité est déléguée aux Marocains. Donc les gens arrivent. Tu sais pas pourquoi la sécurité marocaine tout d'un coup est assez passive, parce qu'en fait nous les Européens on délègue souvent nos frontières à des pays en dehors. Ça on l'a vu aussi notamment il y a quelques années où on avait délégué au Liban le traitement des migrants qui venaient de Syrie, etc. Enfin il y a un moment où il va falloir quand même se poser aussi des questions. Voilà, là, exactement.
Et là, la Giorgia Meloni, elle a négocié aussi avec des pays d'Afrique, la Tunisie. Notamment la rétention des immigrés. Elle paye d'ailleurs pour ça, Giorgia Meloni.
La deuxième chose, c'est qu'il ne faut pas se mentir, on est faible. L'Europe est un continent vu, en tout cas de l'extérieur, comme étant faible. Premièrement, faible sur ses frontières, c'est-à-dire que oui, elle se barricade, là tu vois, on voit des grillages, etc. Mais la faiblesse, elle vient de quoi? C'est que je pense que les migrants se disent, une fois que je rentre là, il y a très peu de chances qu'on réussisse à me ramener de l'autre côté. Donc ça, c'est une faiblesse de pas pouvoir. Le fait, c'est pas seulement de se dire ah oh, on barricade tout, etc. C'est la force, elle est aussi de se dire ok, s'il y a des gens qui rentrent, est-ce qu'on a les moyens de les ramener de chez eux? Eh ben l'Europe, à mon avis, est vue comme incapable, en tout cas en majorité, d'exercer ce pouvoir-là, c'est-à-dire de se dire bah les personnes n'ont pas le droit de rester là, je les renvoie chez eux. Ça, c'est une énorme faiblesse. Et la faiblesse, elle vient aussi du fait que technologiquement, on est déstabilisé sur le plan digital, technologique. Les gens savent que, en fait, on peut venir déstabiliser l'Europe avec la crise migratoire, parce qu'en fait, moi, je crois à la Russie ou bien à d'autres choses. Parce qu'après ça,
c'est peut-être pas la Russie.
Ou autre chose. Mais après ça, qu'est-ce qu'on va dire? Regardez comment ils sont faibles. Regardez ce qui vient chez eux, etc. Machin. Donc. L'Europe est vraiment, c'est dommage que des gens qui se soient réunis à 28 pour être puissants soient aussi faibles. Et la faiblesse, je l'ai vue aussi dans les réactions suite à l'arrivée de ces migrants.
C'est-à-dire ils sont partis d'ailleurs dans les 36 heures. On me dit que 50 000 ou 70 000
sont repartis.
Tout le monde aux habitants de Ceuta s'ils sont repartis.
Mais excuse-moi. Zéro solidarité, c'est-à-dire qu'on s'est mangé entre nous. L'Italie, Giorgia Meloni a attaqué l'Espagne, alors qu'on aurait dû.
Giorgia Meloni de droite, l'Espagne de gauche.
Oui, mais peu importe. Enfin, je veux dire, il y a un moment, c'est les frontières européennes, de droite, de gauche. Soit on se soutient ensemble, parce que j'imagine que l'Espagne n'a pas souhaité accueillir. Je sais qu'ils ont une politique de régularisation, mais c'est une politique contrôlée, c'est une politique volontaire, pas une politique subie. Donc là, ils ont subi une vague migratoire. Il y a à les soutenir et pas à leur dire ouais attention, hein, moi tout d'un coup je serai plus solidaire de vous machin. Enfin, on est zéro sur le plan de la force, et la force c'est aussi la cohésion. Et on
mais
est parce zéro.
Que, oui, mais d'accord, mais la force c'est aussi des images. Si on montre des images, si tu veux, de coercition ou de force face à des gens qui arrivent, qui sont des migrants, qui sont pour beaucoup démunis et autres, on se dit aïe, qu'est-ce qui va se passer? Quelle image on va renvoyer et autres?
Il y a aussi la volonté politique. Enfin, on a connu ces images-là à Lampedusa, ça n'existe plus aujourd'hui. Lampedusa, c'est plus ce foutoir-là. Pourquoi c'est plus ce foutoir-là? Parce que je présume que Mélenchon, elle a fait les choses pour que ça soit plus ce foutoir-là, quoi. Voilà. Non, et que, en plus, l'Italie, c'est un pays qui a besoin d'immigration. Mais ils gèrent leur immigration.
Voilà. Avec des permis de séjour. En fait, Antoine, et puis après, on écoute Francis au 32-16.
Moi, j'ai été directeur de cabinet du maire de Calais au moment de la crise migratoire. J'ai déjà eu l'occasion de le dire ici. Vraiment, la lâcheté de ne pas traiter le problème ne rend même pas service aux migrants eux-mêmes qui se retrouvent dans des camps, dans des cul-de-sac à Calais, qui mettent leur vie en danger, etc. Et donc, en réalité, même au nom de l'humanité, on devrait faire preuve d'une grande rigidité en indiquant que personne ne passera, que personne n'obtiendra de régularisation. Et je pense que si on veut maintenir l'existence d'une Union européenne, d'un espace Schengen, on doit interdire aux États, indépendamment de faire de leur propre chef des régularisations, parce que les régularisés en Espagne sont évidemment depuis partis en Angleterre, en France, partout ailleurs. Donc si on veut pouvoir faire durer l'Union européenne, faire exister cette idée qui n'est pas vraiment la mienne, ça passe par
de
la fermeté urgente.
C'est Francis qui va en discuter avec nous, il appelle de Meurthe-et-Moselle, il a de la famille en Espagne. Bonjour Francis.
Bonjour à tous.
Bonjour Francis, est-ce que vous pensez qu'on va avoir droit à une nouvelle crise là, le week-end du 15 août? Enfin, c'est ce qui semble émerger sur les réseaux sociaux, dites-moi.
Non, alors comme on rentre dans une période de campagne présidentielle, tout le monde se précipite sur immigration, vague migratoire, l'Union européenne, les frontières, etc., etc. En Espagne, c'est pas du tout la question qu'on se pose. En Espagne, on se dit, il n'y a pas 70 000 personnes qui décident comme ça un jour. Réunir 70 000 personnes, c'est remplir quasiment le Stade de France. Donc, il n'y a pas 70 000 personnes qui un jour comme ça décident de se précipiter à un endroit. C'est quelque chose qui est organisé. Donc, la question que les Espagnols se posent, c'est qui est derrière cette organisation? Ça vient du Maroc. Ok, mais le Maroc n'est pas un pays en crise, n'est pas un pays en guerre, le Maroc n'est pas un pays pauvre non plus. Donc, c'est autre chose. Et l'autre chose, les Espagnols, aujourd'hui, le décrivent comme une opération américano-israélienne. Pourquoi? Parce que l'Espagne a pris fait et cause pour la Palestine dans le conflit israélo-palestinien.
Ouais.
Et l'Espagne a interdit ses bases militaires aux avions américains dans le cadre du conflit sur l'Iran. Donc c'est une affaire géopolitique, c'est une affaire géostratégique, mais ce n'est pas un...
Alors qui est à la manœuvre selon vous alors?
En Espagne ils disent Israël, Israël avec l'appui des Américains. Voilà, et ça semble...
Ça me paraît un peu complotiste, moi je...
C'est votre raisonnement, je
vous dis ce qu'on dit en Espagne, et Antoine, il faut arrêter avec ce mot complotiste. Quand on n'a plus d'argumentation, on parle tout de suite de complot. L'immigration. Tous les problèmes de notre pays et de l'Union européenne viennent de l'immigration, mais à un moment donné, on met ça de côté, puis on essaye de réfléchir.
Francis, là, ça n'a étayé par aucune preuve tangible. Donc, on peut vous dire aussi, ça repose simplement sur ce qu'on vous dit en Espagne. Il n'y a pas de preuve de dire qu'effectivement, ce sont les Américains et les services secrets israéliens qui sont derrière. Antoine évoquait la piste d'une déstabilisation.
J'ai dit que c'est géopolitique, mais de là à savoir de qui, je trouve que vous avancez beaucoup et que ça sert finalement le discours de la gauche espagnole de dire « Regardez, ce sont les Américains et les Israéliens qui sont contre nous ». Je pense que c'est aussi un piège politique de dire ça.
Voilà. C'est marrant parce qu'en fait, quand on évoque les Russes, par exemple, il n'y a pas de réaction, ça dérange personne. Mais là, Francis, il avance une théorie, certes, qui n'est pas vérifiée, mais qui est entendable, selon moi. De l'Amérique et d'Israël. Et là, tout d'un coup, complotiste. Non, c'est pas complotiste. Les déstabilisations.
Pour les Russes, ces derniers temps, tous les gens qui ont été interpellés ou interceptés, ils étaient liés aux services russes.
Bien.
Ça s'est vu. Je dis simplement que ce que dit Francis, ce qui lui est rapporté, c'est possible, mais pour le moment, ça n'est étayé par rien du tout.
Mais qu'on se pose la question. Le fait que Francis dise qu'en Espagne, en fait, eux, ils réfléchissent à qui est derrière ça et qu'ils pensent à ça compte tenu des positions du Premier ministre espagnol, ça peut aussi s'entendre. Donc moi, je vois bien que c'est une déstabilisation.
Tu l'as dit toi-même, la faiblesse de l'Europe et particulièrement de l'Espagne, c'est qu'on cherche à savoir d'où ça vient avant de penser à reconduire les gens chez eux, Oui, et on les régularise massivement. Et quand même,
comme
aussi
tu disais,
ça,
c'est une affaire de politique intérieure. Et on voit d'ailleurs en France comment on s'est positionné sur cette histoire Ceuta. D'ailleurs, il y a une interview d'Edouard Philippe qui dit, qui maintenant se pose en chantre anti-immigration. Tu vois, il dit, je refuse l'impuissance migratoire. C'est ce qu'il dit, ce qui s'est passé à Ceuta n'est pas clos. C'est là, un avertissement.
Il veut un
verrou Schengen. Voilà, c'est ce qu'il dit maintenant, Edouard Philippe.
Moi, je veux pas écouter des gens qui ont été aux manettes. Au sommet de l'État, nous raconter des sornettes. Enfin, je peux encore tendre l'oreille sur quelqu'un qui n'a jamais été aux manettes, mais quelqu'un qui a dirigé l'État pendant 3 ans et qui vient tout d'un coup nous dire que lui, il refuse ça, alors que la situation, je veux dire, elle a pas tellement changé depuis que Edouard Philippe était Premier ministre. Donc non, moi je ferme les oreilles, j'écoute pas ce qu'il raconte.
Il va limiter l'immigration à 80 km/h.
Surtout que dans le même. De son temps, quand il était aux manettes, c'était à Lampedusa, mais c'était la même chose.
Surtout que dans le même temps, Edouard Philippe dit qu'il est en faveur d'une immigration de travail, si tu veux. Donc il y a une espèce de nouveau dans même temps.
En tout cas, ça montre bien que ce sera un sujet clé pour la présidentielle, au point que le centre, qui historiquement n'a pas de discours d'immigration très construit, essaye d'en trouver un. On a vu Attal, on a vu Edouard Philippe, donc ça montre bien, si même eux vont sur le sujet, qu'on a un problème.
Merci Francis d'avoir été dans les Gigi. On a posé la question, est-ce que vous pensez qu'on va avoir une nouvelle crise migratoire le 15 août prochain? Vous dites oui à quasiment 90%.